Dès lors qu'il s'agit de les comprendre dans notre contexte propre, celui d'Haïti. Nous sommes parvenus aujourd'hui en Haïti à ce paradoxe accablant, celui d'un peuple à jamais à ce point appauvri et dominé, et à qui on présente comme bouée de sauvetage l'un des symboles même de sa domination, la langue française. Mais ce paradoxe nous met d'abord en face d'un problème épistémologique. À quel titre peut-on tenir un discours sur l'identité culturelle en Haïti? Quels sont les présupposés d'un tel discours? Quelle est l'histoire elle-même de ce concept d'identité culturelle? Curieusement, le concept d'identité culturelle s'appliquait d'abord aux populations dominées périphériques, pudiquement désignées par le terme de sous-développement. Comme si soudain, l'obsession du développement économique subissait une éclipse au profit de celle de l'identité culturelle. Un nouveau problème apparaîtrait, un nouveau besoin ferait une entrée en scène bruyante, ces populations auraient perdu leur identité, il deviendrait nécessaire, urgent, de les aider à la retrouver. Mais quelle est l'économie d'une telle démarche? D'où proviendrait tout d'abord cette perte d'identité culturelle? Phénomène de la nature, effet du hasard, inattention malheureuse des métropoles qui autrefois s'étaient chargées du destin de ces peuples et qui aujourd'hui voulaient reconnaître et même promouvoir leur existence culturelle. D'où proviendrait cet excès de générosité et de dévouement? Force est de revenir à l'histoire même de l'évolution culturelle de ces peuples, dont on voudrait défendre l'identité. Car là où l'on parle d'identité culturelle, il s'agit d'abord de domination. C'est la domination qui est le concept de l'identité culturelle. Domination déjà là, déjà opérant, autrement dit, le processus de blocage de l'évolution autonome d'un peuple au profit d'un autre. C'est aussi la définition de l'aliénation. Le concept d'identité culturelle va donc impliquer réappropriation et reconquête de soi, donc contestation d'une violence et d'un refoulement. Mais cette contestation peut-elle se cantonner dans une réappropriation verbale et même théorique de sa réalité culturelle? Là serait sans doute le piège tendu par le concept d'identité culturelle. De notre côté, s'il existe aujourd'hui un problème d'identité, il ne mérite d'être traité que si l'on s'attaque au fondement et aux sources du problème lui-même. Car il n'y a pas de domination culturelle qui ne soit en même temps économique et politique. Vouloir parler d'identité en passant sous silence son fondement reviendrait tout simplement à justifier, à consolider le même processus violence-domination qui est à l'origine de la problématique de l'identité elle-même. Le concept d'identité semble en effet renvoyer la plupart du temps à un système de valeurs, de significations, de pratiques propres à un peuple, mais sans lien, comme si ce système pouvait être sans lien avec les rapports sociaux et le mode de production. Comme si on pouvait exhumer et brandir ce même système propre comme un drapeau pour se faire une place dans une sorte de concert de nations. Qui est alors en quête d'identité culturelle? Qui éprouve le besoin d'identité? Quelle est la position sociale de ceux qui tiennent un discours sur l'identité culturelle? On est en droit de se demander si ce concept n'offrirait pas subrepticement pour les pouvoirs établis un glacis de protection contre l'intrusion des questions relatives aux clivages sociaux, donc à la domination économique et politique elle-même. puisque c'est cette domination économique et politique qui est à l'origine de la problématique de l'identité. En nous appuyant sur le seul cas d'Haïti, nous croyons possible de montrer que la problématique de l'identité culturelle met plutôt sur notre chemin trois séries de questions inséparables. L'histoire d'une domination économique, politique et culturelle à la fois. Deuxièmement, une lutte de classe interne au pays lui-même. Troisièmement, la pratique de création et d'inventivité culturelle populaire en opposition à un discours idéologique sur une prétendue culture en soi transcendante à sauvegarder, à inventorier ou à remettre en valeur. Religion et identité culturelle en Haïti ou l'histoire d'une domination. Le plus grand obstacle à une approche scientifique des rapports entre religion et identité culturelle provient de la tentation d'autonomiser doublement la religion. D'une part, comme une catégorie détachable des autres éléments de la culture, art, coutumes matrimoniales, droit, école, presse, etc. Et d'autre part, comme une totalité qui disposerait de sa loi propre, de son propre système de transformation interne et qui échapperait aux déterminations économiques et politiques. Effectivement, du point de vue empirique, la religion offre cette illusion d'autonomie, même à ceux-là, surtout à ceux-là qui la pratiquent. Système de croyance, d'institutions, de corps hiérarchique, de vision du monde, constituant un champ spécifique à l'intérieur duquel les intérêts sont spécifiquement religieux, non économiques ni politiques. Sans cependant dissoudre le phénomène religieux dans la culture en général, car ce serait là une tentation, c'est celle des sociologues la plupart du temps, ni dissoudre non plus la religion dans ses déterminations économiques et politiques. Il convient de la resituer dans sa position réelle, dans le cadre de la formation sociale d'Haïti, et particulièrement pour Haïti, dans l'histoire elle-même de cette formation sociale. C'est à ce niveau qu'on pourra comprendre que la religion est fondamentalement liée à l'identité culturelle en Haïti. À la question de l'identité culturelle en Haïti. Donc je ne parle pas de la religion en général, comme dans le sens, ni dans d'autres cas, dans d'autres expériences comme celle qui vient d'être exprimée tout à l'heure. Ce n'est pas ma problématique, c'est celle de l'histoire de la formation sociale d'Haïti. Je m'intrigue pour le moment. Dans le mode de production esclavagiste au XVIIIe siècle en Haïti, on ne comprendrait rien au rapport entre religion des maîtres, le christianisme, religion des esclaves, le vaudou, si à travers la religion, on ne voit l'enjeu d'un processus d'imposition, non pas de la religion, mais de tout un code culturel étranger, celui des maîtres colons, qui comprend à la fois système juridique, système matrimonial, système linguistique, système d'éducation, comme normatif, comme représentatif de toute culture. On pourrait s'acharner à dénoncer le caractère arbitraire de l'imposition d'une culture étrangère aux esclaves, mais cette imposition n'a de sens qu'en rapport au profit symbolique qu'en tiraient les maîtres, leur présence serait civilisatrice, et au profit politique qui en est la conséquence. Les esclaves devraient dévaloriser leurs propres pratiques culturelles et apprendre ainsi à réprimer leur désir de révolte contre l'ordre esclavagiste. Quand à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire exactement vers 1899, à la fin du 19e siècle, et vers 1940-1941, une campagne dite anti-superstitieuse a été organisé par l'Église catholique, religion officielle et concordataire, beaucoup d'intellectuels haïtiens la dénonçaient comme une honte, une infamie culturelle. Mais rares sont ceux qui y découvraient la seule quête d'une bourgeoisie en mal de légitimité ou de désir de reconnaissance par les métropoles et de l'organisation de son propre pouvoir en Haïti. Le peuple haïtien est civilisé parce qu'il existe une élite civilisée. Ainsi, l'ordre culturel occidental serait sauvable. La persécution du vaudou n'aura été que le détour pris par la bourgeoisie pour justifier les rapports sociaux existants, docilité des masses, et après coup, ou a posteriori, la fameuse occupation américaine de 1915 à 1920. 1966, création de l'épiscopat catholique indigène. Ce geste pouvait laisser croire qu'il s'agissait de solutionner un problème religieux, celui d'une domination étrangère. Or, toute une histoire non religieuse, mais politique et économique, s'inscrivait. L'ouverture du pays aux compagnies canadiennes, américaines, qui ont besoin de sécurité pour leurs investissements. Trois ordres de fait, pour faire vite. L'interdit jeté sur la religion des esclaves, la campagne anti-superstitieuse à la fin du 19e siècle et vers le milieu du 20e, la création de l'épiscopat catholique indigène en 1966, concourt à montrer que la question religieuse en Haïti est déterminante, centrale dans la formation sociale particulière d'Haïti et qu'à aucun moment elle ne peut être cernée en l'isolant des intérêts économiques et politiques qui sont en jeu. Bien entendu, ce n'est pas là une situation spécifique pour Haïti, puisqu'en nous reportant au mode d'implantation du colonialisme français et anglais en Afrique, on retrouve la même signification au phénomène. Nous n'avons pas besoin de la démontrer ici. C'est que dans tous les pays dominés, les pays dits de la périphérie, donc dits du tiers-monde au-delà du premier monde, puisqu'il y a du tiers-monde dans le monde occidental lui-même. C'est que dans tous les pays dominés, la religion représente un élément fondamental dans le nouvel ordre important. On peut comprendre qu'à travers elle, le problème de la revalorisation de la culture nationale ou de reconquête de l'identité culturelle pour les pays sous-développés se donne à entendre. Souligner que la question religieuse renvoie à l'histoire d'une domination sous toutes ses formes en Haïti, c'est encore rester à un niveau élémentaire de l'analyse des rapports entre religion et identité culturelle. Si la religion correspond à un élément plus vaste, à un élément d'un plus vaste champ culturel, comprenant, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, système matrimonial, langue, école, éducation, art, etc., c'est son articulation avec ce champ culturel qu'il importe de déterminer. Les classes privilégiées en Haïti, dans l'histoire de la formation sociale d'Haïti, cherchent moins à imposer une religion que leur système juridique, que l'appareil scolaire, la langue, le modèle d'éducation. La religion ne serait pour la classe dominante en Haïti qu'un canal, un chemin de passage pour cette domination culturelle plus vaste, plus large, plus profonde. Depuis le 19e siècle, en effet, le christianisme ne suscite d'intérêt pour les pouvoirs établis, je dis bien depuis le 19e siècle, que parce qu'il va faciliter l'installation de l'appareil scolaire destiné à fournir les élites nécessaires à la reproduction des rapports sociaux. Puis, l'imposition de la langue française comme seule langue ou langue de culture, puis du système d'organisation familiale occidentale pour l'adaptation au système de production et de consommation, puis des pratiques médicales basées sur une vision du corps, pris essentiellement comme objet et comme force de travail, et sur une conception de l'individu détaché de son ancrage social. En s'enfermant dans le seul rapport christianisme-vaudou, on voit bien qu'on dissimule le véritable terrain sur lequel opère la religion. Comme par hasard, voici qu'aujourd'hui, les églises dans le tiers-monde sont prêtes à reconnaître des erreurs de tactique, les méthodes autoritaires d'inquisition, non point cependant celles de stratégie, à savoir le procès d'assujettissement aux symboles et aux valeurs de la classe dominante et donc des bourgeoisies occidentales, dont cette classe tire sa force de dissuasion et son soutien logistique en Haïti. Les églises, en effet, utilisent le français pour les élites, par le biais des écoles congréganistes, et le créole pour les masses, consacrant ainsi les positions respectives de ces deux langues dans les rapports sociaux. Elles s'offrent pour la diffusion de l'idéologie de l'aide et du développement, en occultant le fond du problème, c'est-à-dire l'intégration et l'adaptation des masses haïtiennes au système économique producteur de sous-développement. Elles apparaissent même comme la pointe la plus avancée dans le système de coopération. Plus proche du peuple, elles peuvent mieux diffuser l'idéologie du progrès, de l'instruction scolaire, de la technique, comme antidote du sous-développement. Nous n'avons pas encore tout à fait compris. Pour se rendre compte des contours réels de cette domination culturelle plus vaste, il faut la replacer, la question religieuse, maintenant, dans le cadre des conflits sociaux internes au pays lui-même. Que la religion renvoie à une domination plus large, cela peut encore entraîner un consensus général en Haïti, et même susciter toute une littérature de contestation de l'école indigéniste à nos jours. Même dernièrement, avec l'enquête sur le développement de Jean-Jacques Honorat, l'ouvrage qui vient de faire beaucoup de bruit en Haïti, on n'a pas de peine à reconnaître qu'en Haïti, la domination culturelle prend un caractère violent, extrême, intolérable. Que de plaintes contre la répression du vaudou, des types d'organisation familiale dans les campagnes, de la langue créole, etc. Pourtant, un tranquille travail se poursuit contre les pratiques culturelles populaires. Il faudrait se demander dans quelle mesure ce travail ne s'opère pas avec une certaine complicité de la contestation culturelle elle-même, là où cette contestation culturelle resterait aveugle sur les rapports sociaux et le cadre politique dans lequel elle s'exerce. Nous distinguons, pour notre part, deux types de contestation culturelle. Une contestation culturelle réelle, celle des masses dans leur pratique quotidienne de marronnage des appareils et systèmes idéologiques dominants, du droit, de l'école, de l'organisation familiale occidentale, des églises, etc. Et de la contestation culturelle comme discours pouvant provenir essentiellement de la petite bourgeoisie, comme discours sur la culture aux masses, ayant la plupart du temps, pas toujours, perdu sa propre identité, cette petite bourgeoisie ne peut vivre que de la récupération de ses valeurs culturelles, transformables en folklore et en marchandises. L'identité culturelle deviendrait alors, ce serait d'un côté, le discours d'une différence culturelle, d'une revalorisation de ses coutumes ou de l'évolution progressive vers le développement, sans heurts culturels, c'est-à-dire dans la dépendance maintenue. Et de l'autre côté, une manière d'exorciser les idées et les pratiques de rupture, de rapport de force à instaurer, de processus de transformation de la suggestion culturelle en symbole de rébellion. De quoi s'agit-il encore une fois, à travers les rapports entre le christianisme et le vaudou en Haïti? Non pas de deux religions, l'une dominante, l'autre dominée. Non pas de deux cultures, l'une étrangère, l'autre locale, mais de rapports sociaux. Intervient maintenant une nouvelle tentation, celle de la sociologie, de comprendre la religion dans les fonctions ou rôles qu'elle remplit à l'extérieur d'elle-même, fonction de justification des rapports sociaux, ou s'il s'agit de religion dominée, on se demande, cette religion dominée comporte-t-elle des éléments de contestation ou des éléments d'aliénation? Vous voyez, des éléments de révolution ou des éléments d'opium. Pour nous, fausse problématique. Il s'agit plutôt de voir, dans le rapport instauré entre le christianisme et le vaudou, le langage même des rapports sociaux en Haïti. La mise en forme de ces rapports, l'articulation de ces rapports. Pour saisir cette problématique, il fallait au préalable instaurer la religion comme langage dans le procès plus large de l'imposition d'un autre langage, d'un autre code culturel. Nous nous bornerons pour le moment à tenir ensemble, dans un seul et même mouvement, la question religieuse et la question linguistique. Nous pouvons par exemple dire que le vaudou, comme le créole, se trouve dans une homologie de situation dans le cadre des rapports sociaux en Haïti. Non pas qu'on puisse leur prévoir une même issue, une même solution. Le vaudou n'est pas le créole. Mais il en sera du vaudou comme du créole, parce que tous les deux sont constitués en langage. Ils seraient susceptibles, tous les deux, justement, de même traitement, d'analyse connexe et similaire, parce qu'ils constituent les éléments de langage qui symbolisent et peuvent renforcer les rapports sociaux. Dans cette perspective, ni le vaudou, ni la langue créole ne sont repérables, analysables en eux-mêmes, en dehors de la somme de significations dont ils sont affectés historiquement. Et en dehors du champ des rapports sociaux dans lequel ils obtiennent leur poids, leur efficacité, leur statut. Depuis le 19e siècle, les puissances occidentales, encore en expansion, ne sont plus préoccupées de la destruction systématique des cultures ou des pays qu'elles dominent. Seule importait l'implantation, au premier abord à un niveau symbolique, l'implantation des institutions étatiques, juridiques, scolaires, médicales, linguistiques, pour rendre irréversible le processus de domination. Aujourd'hui encore, il s'agit de renforcer ces institutions, tout en concédant d'une autre main aux élites déjà assimilées la possibilité de discours sur la dignité culturelle et les valeurs indigènes. Mais les jeux sont déjà faits. La culture locale est d'autant plus belle qu'elle reconnaît la culture occidentale pour son seul lieu d'épanouissement. Dès le 19e siècle, donc, nous sommes plutôt en présence d'un effort de mise en rapport de la culture étrangère et de la culture locale. Cette mise en rapport consiste à conférer un statut et des positions précises au code culturel occidental étranger comme au code culturel local
dans le cadre des rapports sociaux, des nouveaux rapports sociaux à instaurer. Que se passe-t-il pour le renouveau de créole? Ni l'un ni l'autre ne sont au sens strict interdit, ni sujet à la destruction violente. Des zones d'existence bien délimitées leur sont réservées, la scène familiale, la scène du secret, la scène de la clandestinité, du hors-la-loi, de la honte. De l'autre côté, le christianisme comme la langue française vont signifier civilisation, honorabilité, sociabilité, éducation, efficacité, promotion sociale. On pourra même au besoin offrir le vaudou et le créole comme valeur culturelle nationale, comme originalité, comme différence, pourvu qu'ils conservent leur statut de pratique dominée, qui trouvent leur sens, leur achèvement, c'est-à-dire leur finalité et leur fin disparition dans le christianisme et la langue française. C'est ce paradoxe qui donne à réfléchir en Haïti. Les symboles de la domination culturelle sont présentés, déguisés en symboles d'épanouissement culturel pour le peuple. Ces pratiques de langage que sont le vaudou et le créole restent prises dans les rêves de l'idéologie dominante. Elles ne concernent pas à proprement parler le vaudou et le créole comme tel, mais renvoie à l'organisation des rapports sociaux en délimitant le champ de ces rapports. Je suis obligé de faire vite, puisque le temps passe. Le processus d'appauvrissement que connaissent, par exemple, les paysans pauvres et moyens en Haïti, ou d'exploitation des ouvriers dans les usines d'assemblage récemment installées, ou encore la situation de quasi-esclavage que représente la domesticité dans la ville, ne sont rendus acceptables, tolérables, que sur la base d'un langage d'acceptabilité de ces situations. Un langage
Jean, pour me battre, on a mis en ligne de compte, on a fait un créole, parce que dans le fond, il s'agit d'une pièce créole. Donc, on a trouvé Peter bien mal placé. On prend qu'on fasse une interview en français.
Absolument, d'accord.
Est-ce que vous êtes d'accord?
Non, d'accord, Franck.
C'est ce qu'on voulait, lui.
Bon, ok, non, d'accord. Mm-hmm. Attends-moi un petit moment.
Je vais stopper.
Allô, Franck Fouché?
Jean-Dominique.
Franck Fouché, est-ce qu'on connaît que François Latour a monté Bouquin au Paradis Port-au-Prince et que déjà nous première à Port-au-Prince? Alors, je profite de ce séjour au Canada pour me faire un petit coup de téléphone pour l'auditeur Radio Haïti Intérieur capable de connaître exactement qui monde qui est auteur Bouquin au Paradis, Franck Fouché, parce que vous avez longtemps quitté le pays.
Ouais, j'ai 12 ans depuis que j'ai quitté le pays.
Mais Bouquin au Paradis, t'es écrit déjà.
Paradis, t'es écrit, t'es gagné ça comme là, près de 12 ans. Hein?
Oui.
Près de 12 ans. J'écris le livre Port-au-Prince, naturellement, c'était pour mes versions. Je fais quelques variantes, là, pour mes versions, et c'est version ça qui exactement joué Port-au-Prince.
Ah, c'est une version définitive là que
j'ai joué. Version définitive là que monsieur joué.
Bon. Alors, son pièce qui t'aime beaucoup en pile, et à nous même tout, parce que je pensais que François l'a tout dit, mais avant que le monte pièce là, mm-hmm. qui plaisir des points pour le mettre en scène, bien que lui-même il va jouer la donne, mais on plaît à l'acteur de talent, très intéressant,
oui,
très valable.
Il dit, mais sur mon téléphone, et que les gars ont un bel enthousiasme qui l'autre boit, monsieur plein d'élan pour le monte pièce là. Je suis content, parce que dans le fond, son pièce, vraiment, comme on dit, qui est même à cœur en pile. Vous comprenez, c'est pour mes pièces, vraiment, qui centrent sur le folklore que m'écrit.
Pièce qui centrent sur le folklore, justement. Et, Franck Fouché, est-ce que tu as capable d'expliquer, nous, qui pulsion, qui portait au bout écrit pièce ça?
Mais d'ailleurs, c'est toutes ressources culturelles, non, dans le folklore. Et à partir des contes, Bouki et Malice qui parmi les contributeurs riches que nous avons dans le folklore haïtien. Alors moi-même, je prends un compte ça, compte bouquet à Malicio, et puis m'interprète. Parce que je ne prends pas les gens dans le folklore brut, je transforme. Je cherche toute dynamique qu'il a dans eux, pour me mettre dehors. Je rentre à l'intérieur de ça, et puis m'actualiser. Vous comprenez?
Très bien. Ces premières pièces créoles, François Latour, monté. Et je trouvais que ce n'est pas un hasard que décision de monter pièce ça, mm-hmm. rencontrer décision par pour écrire pièce ça il y a 12 ans. Mm-hmm. Mais est-ce que conception théâtrale qui manifestait dans pièce ça restait pour même Franck Fouché, auteur de théâtre et dramaturge, la même? Et sinon, quelle évolution qu'on subit depuis 12 ans?
Ah non, je suis bien. Pas cette évolution, naturellement, Burkina Paradis, c'est un premier pas, parce que je prends folklore, mais j'interprète comme on dit. Et deuxièmement, moins actualisé Mithio. Mais je retenais l'écriture occidentale là, bien que tu es dans ça, dans ni, dans chant. Autant dire qu'autant de choses qui étaient un peu différenciées du théâtre occidental là. Mais cependant, on était resté avec parole occidentale là. Mais Koulia là, avec Denis Presque Mécria, et qui est un toit de soleil pour Charlemagne impérial, m'arrivait au non-texte. M'arrivait au non-texte, et parole là, qui piégeait tout au long de combien de siècles, on voit me prendre, me dépiéger parole là, me faire le vin en parole, pas non. Ça nous voulait dire la donne. Vous comprenez? Et même l'homme m'employait parole occidentale là, mes paroles là, montrer que son parole polluée, que son parole piégée. Et ça qui a valeur pour moi, Koulia là, c'est plutôt non-texte. Et non-texte qui appuyait sur toute ressource que vaudou non, parce que vaudou non, son bagage qui est capital, si jamais nous voulons faire une littérature originale, c'est vraiment vaudou qui. Démythifier qui pour bas nous vraiment une écriture originale, nouvelle, dramatique.
À ce sujet, m'apprendre, Franck Fouché, qu'à propos de vaudou et qu'on thèse qui est le vaudou est-il un pré-théâtre ou un théâtre?
Ah oui.
Est-ce que c'est dans la ligne, travail, recherche dramatique ça, que vous
avez. Ah oui, parce que dans la thèse, ça a développé, on dit à coup de polégomène, qui ouvrit. On nouvelle écriture dramatique pour théâtre non cherché et qui cap seulement vrai pour théâtre national non populaire national non mais vrai encore pour théâtre qui a mon nom qui même théâtre occidental là parce que théâtre occidental là mourir il pas gagné pour le dire encore là qui l'osait vous comprenez donc nous pensons que son thèse pour nous à mon sens qui est capital et que toi de Charlemagne impérial, toi de soleil pour Charlemagne impérial, là, son thèse qui vient jouer une illustration même dans la pièce.
En d'autres termes, Franck Fouché, 12 ans passés à l'étranger, sur une terre étrangère, celle d'Haïti, en quelque sorte, il me comprend bien, il permet de joindre un chemin peut-être plus authentique de personnalité ou comme homme de théâtre haïtien.
Oui, parce que non bat bête l'empile. Non bat bête l'empile, c'est-à-dire que non presque fait tout théâtre, ça fait couler à travers Tiamounan, on prend par exemple du côté de l'Afrique avec Soinka, avec Ndao, du côté des Antilles avec Lissan, avec César, tout le monde sait, Maryse Condé, Boukman. Mais non, ouais, tout ça est fait, non, ouais, toute tentative de faire. Mais non, nous cherchons à pousser pile ou encore, parce que je suppose que non, nous avons autant de ressources, ce n'est plus de ressources que nous avons encore pour nous pousser l'écriture dramatique là.
Oui, mais c'est ça que je comprends, c'est que, au parti de première pièce où il y a 12 ans de ça en créole, et vous dites que malgré tout, parole là, t'es piégé parce que langage est occidental et pourtant t'es en créole.
Ah oui, parce que même en créole, le langage est piégé toujours. si par exemple vous voulez s'ouvrir les gants idée parce que dans le fond par contre souvent vous qui en parlez bien mais sous garder par exemple en roman des affiches par exemple de Franck Étienne ou est que Franck Étienne dans même foulée ça la même démarche là pour lui arriver des piégés par là parce que la comme française mais qui ça d'ailleurs en préface les petits pour la tout festival eh ben créole aussi piégé que français.
Donc, alors, on dit à propos de désafis que les joueurs le même problème, non, mais que le résoudre d'une certaine façon. Comment d'après vous le résoudre le problème?
Ah, le résoudre le problème, non, en ce sens que, premièrement, écriture, une écriture romanesque, une nouvelle écriture romanesque, que nous pas jamais dégagné, même avec Jacques Oumel, avec Alexis, qui était encore tributaire au Kidan chrétien. On va arriver à dépiéger parole là et arriver à trouver symbolique nationale là. Pour le baron roman nouveau, non, tout ça fait un roman très neuf.
Très neuf, d'accord. Et d'accord, à coup, vous pensez que réellement des affiches représentées un événement.
Un événement capital.
Expression parlée, expression écrite haïtienne. Cependant. Franck Fouché, un bagage qui saute aux yeux dans des affiches, c'est que langage accodé.
Oui, langage accodé. Eh bien, justement, langage accodé, c'est ça qui fait valeur langage, parce que dans le fond, il vient avec d'autres dynamiques là-dedans que le pacte a gagné encore avec toute pollution, toute aliénation que le dégât là-dedans.
Ah bon, d'après vous, donc. Langage codé ça,
bail en
dimension.
Dimension.
Ah bon d'accord. Mais nous pas ici parler de désafis. Naturellement, on est désafis moyen, non? Bon Canada, toute l'élection haïtienne dans Canada. Moyen non, mais bon nous presse la couelle, c'est Franck Fouché à la mode, puisque Boukine en paradis, sous toute bouche, tout le monde a tiré cri crac, a songé, Boukine malice, grâce à œuvre à fait paraître, qui fait mes en scène. Est-ce que, ou avez écrit un créole encore, Franck Fouché, est-ce que théâtre, son théâtre, comment lié? Est-ce que le créole là, il avancé dans sous tel exil là?
Ah, l'avance est sérieuse parce que dans le fond, on a des démarches qu'on fait dans New York, ici, à Montréal, là. Moi-même, j'ai peut-être deux livres créoles qui parlent par talent. C'est la cancel machine à fait noir. Et puis, parler langage. On prend une
petite... C'est poème ou bien
C'est poème. C'est poème. Et une grande tendance écrit encore notre pièce en créole, d'ici à bientôt, naturellement, il faut m'opposer, je viens d'écrire Thèse, je viens d'écrire Charles Manin, mon pote, il faut se bouler. Donc, on a pointé au pot, où il y a là, mais une prochaine pièce en pécrit, une pièce créole en pécrit.
Faut que je parle de Charles Manin Pérel, ça, deux ou trois fois,
ouais.
On les aurait même emprisonné, parce que son héros, qui a pile racine dans le cœur haïtien. Et est-ce qu'on croit que nous sommes capables d'espérer un jour pour nous Charles Manin Pérel ça a joué sous scène Rex Théâtre?
Ah, pour ça, c'est un plus grand plaisir de gagner pour ça jouer la carrière. Moi, on reprend mes dollars parce que je ne sais pas qu'on aime comme je suis là dans l'année. On reprend parce que Charles Manin, tout n'a certainement pas tant de pièces historiques. Même mon Charles Manin Pérel, c'est un anti-héros. Ils sont anti-héros. On prend un petit héros en ce sens qu'il est mutant à la fois, on prend et qu'il travaille, il travaillait par toutes les forces extérieures, premièrement choc. Choc non qu'on est haut, on prend un choc occupation américaine, non? Et puis choc toute terre haïtienne, non? C'est-à-dire avec tout ce que ça recèle de mythe, de ceci, de cela. On prend.
Donc d'après vous, Charles Manin Pérel l'a vu par un dramaturge, son personnage intériorisé et actualisé en même temps.
Oui, actualisé, intériorisé en même temps. Il n'y a pas rien pour le voir avec histoire, j'ai une histoire à faire là. On prend. C'est ça peut-être qui fait originalité pièce là. Et puis non-texte dans le texte là. Le non-texte, on prend parce que je me souligne ça pour moi. Le non-texte à son bras, c'est sérieux pour moi pour le théâtre là. Parce que je me supposais que parole là. Parole là, pas grand rien pour le dire. Dans d'autres langages, qui est infiniment plus intéressant que parole là. Ou on prend un coup de danse, on prend un coup de chant, d'un coup encore mime, d'un coup encore acrobatie, tout bagage ça, autant de langage qui est infiniment serré en réalité, qui bat en perd plus de dimension que toute parole qui cap dit. On voit.
Moi, bah, théâtre là, les mêmes en Haïti, on voit dimension, il y a beaucoup de comédiens au travail.
Ah oui, que... non, c'est pas ça, recherche.
Mais ça va mener nous très loin. On va mettre de l'eau dans la bouche, non. On va parler de paquet de bagailles pour devant. Mais je dis, c'est pour nous dire merci pour Burkina Paradis.
Ah, bonjour, mon cher.
D'accord, Franck.
D'accord, Jean.
Et peut-être à bientôt.
À bientôt, Jean.
Bientôt, Charles-Marie Perrault, Port-au-Prince.
Thank you, Jean.
Bonne
merci.
Chance, Franck.
Merci, Jean.
Bye-bye.
Bye.
Anglade, vous êtes l'auteur de L'Espace haïtien. Tout le monde connaît en Haïti L'Espace haïtien. Ma première question, pourquoi un géographe haïtien et pourquoi l'enseignement de cette géographie?
Bon, l'enseignement de cette géographie, je crois qu'elle est absolument nécessaire, d'abord pour marquer une rupture. Et j'ai enseigné des années dans l'enseignement secondaire haïtien, j'ai été formé à l'école normale d'Haïti, à la faculté de droit, comme tout le monde, je dirais presque dans l'enseignement, et il était absolument nécessaire de marquer une rupture, coupure, avec un type d'enseignement qui nous venait d'ailleurs, inadéquat, non adapté, et qui surtout ne touchait absolument pas aux réalités haïtiennes. Bon, ces réalités fondamentales de notre pays. C'était ça l'origine de cette tentative qu'a été L'Espace haïtien, tentative de bâtir pour le secondaire de la 6e à la philosophie un outil de travail, de conscientisation, de compréhension de cette réalité.
Réalité que vous voyez multiple. La géographie n'est plus ce qu'elle était, n'est plus pour vous du moins, ce qu'elle était auparavant, description physique, topographique, d'un territoire, mais la géographie est vue comme une appréhension de problèmes totaux, sociologiques, économiques, statistiques, géographiques, minéralogiques, humains et même ethnologiques.
Oui, oui. La géographie, bon, il y avait une ancienne conception de la géographie. C'était celle d'une géographie des cours d'eau, montagnes, etc. Celle qui continue d'ailleurs à dominer au niveau du certificat d'études primaires. Quels sont les cours d'eau que vous traversez en sortant de Port-au-Prince, en allant au Cap-Haïtien ou au Caï?
L'énumération des 550 communes de la République.
De la République, etc. Bon, il y a une rupture à marquer. Bon, et ce n'est pas ceci la géographie. La géographie, c'est l'étude de l'espace, et l'espace en tant que réceptacle de toutes les dimensions, dimensions certainement sociales, économiques, politiques, et dimensions aussi culturelles. Alors c'est de travailler à ce niveau-là, c'est-à-dire de livrer un espace haïtien qui pose aussi bien les problèmes de l'agriculture, de la commercialisation, que par exemple les problèmes de l'urbanisation en Haïti.
En d'autres termes, si je comprends bien, à partir de l'espace haïtien, première étape, et aussi convergence de disciplines, lieu de rencontre de diverses disciplines, il y a un nouveau départ qui, espérons-le, ne sera pas une rupture, il y a un nouveau départ pour d'autres recherches. Et justement, Georges Anglade, quelles sont ces recherches que vous nous préparez après l'espace haïtien, premier volume?
Bon, et après l'espace haïtien, premier volume, il y a immédiatement quelque chose qui a terminé et qui est une lettre ouverte au professeur de géographie. C'est une réponse, disons, à une longue correspondance que j'ai eue pendant les deux dernières années avec plusieurs collègues et géographes en Haïti et surtout de la province et quelques-uns de Port-au-Prince. Et cette lettre est une réponse à l'ensemble des interrogations qui se posaient dans l'utilisation de ce volume. L'utilisation de ce volume présente quelques difficultés. Bon. Et on lève l'hypothèque de ces difficultés. On les explique, on donne un fil et je réponds, si vous voulez, à la somme des questions qui étaient posées, des difficultés qui se présentaient. Tout en proposant, de la 6e à la philosophie, un type d'étude des deux volumes, l'espace haïtien 1 et espace et société, le numéro 2, qui viendra probablement l'année prochaine en 77. Et cette lettre ouverte devrait maintenant permettre à tous les professeurs de pouvoir utiliser avec pertinence l'espace haïtien au niveau du premier cycle et au niveau du deuxième cycle. Les calendriers sont développés jusqu'au bout, c'est-à-dire dans les détails hebdomadaires. Et également, une mise en place de cette nouvelle science du social, de la nature haïtienne, à l'intérieur du secondaire.
Je vous signale, Georges Anglade, que la bouteille l'espace haïtien lancée dans la mer de notre pays est arrivée sur des rivages inconnus de vous à l'origine, ou peut-être inattendus. J'ai entendu des animateurs de radio, des chroniqueurs de télévision, des animateurs polyvalents de développement communautaire utiliser avec beaucoup d'intelligence et de nuance les éléments de l'espace haïtien. Je suis sûr que ces géographes en herbe ne seront peut-être pas indiqués dans cette lettre ouverte, mais vous devrez certainement tenir compte de leur action, inattendue, du moins.
Oui, c'est... vous m'apprenez quelque chose qui est là une surprise. C'était un petit manuel destiné à l'enseignement secondaire et envoyé au niveau des écoles. Je me suis surtout préoccupé, autant au niveau des recherches que de toutes les recherches que j'ai eu à faire sur le terrain en Haïti, également de tous les contacts que j'ai pu développer à l'intérieur, de viser essentiellement une clientèle scolaire. Et la bouteille, comme tu dis, a dépassé le stade des écoles, ou du moins n'a pas pris sa place dans les écoles, mais a été ses choix sur une autre rive, qui était une rive d'utilisation à laquelle elle n'était au départ pas destinée. Mais je rassure tout ce monde également, je prépare un autre texte qui s'appelle « Paysans et marchands haïtiens » qui leur est plus directement destiné. Alors, si je résume l'ensemble, il y aurait l'espace haïtien et la lettre ouverte qui sont là, devant vous. Il y a espace et société en Haïti, ça c'est dans le domaine secondaire. Mais pour répondre aux préoccupations des autres, alors là, il y a paysans et marchands haïtiens.
Paysans et marchands haïtiens, venons-y. De quoi sera-t-il question? Et en quoi le premier mot de votre prochain ouvrage sera une étape par rapport aux paysans haïtiens qui est devenu un classique?
Ah oui, oui. Il y a une très nette différence entre le traitement qu'a fait Paul Moral du paysan haïtien et même les traitements que font actuellement et l'équipe de l'Institut interaméricain des sciences agricoles de l'Impasse Laveau, avec leurs 32 publications générales et leurs 16 publications précises sur les problèmes de commercialisation en Haïti. C'est que l'approche de Moral était une approche, disons, empirique, descriptive, monographique. C'était la grande école française. Bon. L'approche, je résume rapidement, l'approche de l'IICA, c'est ça le courant fonctionnaliste, quantitatif, mathématique, etc. Bon. Et il existe un troisième courant qui est le courant critique, où on essaie de construire le réel, de l'interpréter, d'un point de vue qui est le point de vue justement des paysans et marchands. Non pas descendre chez les paysans et marchands et essayer de dire comment on les voit, mais passer par l'intérieur de ces paysans et marchands et essayer de décrire le réel tel que eux ils le perçoivent.
Et de voir les mécanismes de fonctionnement.
Tous les mécanismes de fonctionnement, mais tels qu'ils le vivent concrètement eux-mêmes. Or, ceci est très nouveau, puisque toute notre littérature, très belle, enfin, très belle, c'est ce que je trouve à dire devant l'élégance du style et de l'écriture sur le paysan haïtien, aboutissait finalement à une forme d'impuissance. Vous prenez Moral à la fin de son travail, il recommande quatre choses, si j'ai bonne mémoire, il revient à la notion de grande plantation, déplore l'indépendance précoce, je le cite, et il voit dans le développement des denrées, c'est-à-dire des produits d'exportation, la source du développement, et si vous voulez apprendre un très très beau texte, on revient à des solutions qui sont les solutions classiques de l'école empirique, etc. Donc ça n'a aucune opérationnalité. Vous avez la deuxième école maintenant, le deuxième courant d'analyse de paysans et marchands, qui est l'école enfin fonctionnaliste type américaine, quantitative et autres, qui elle analyse le phénomène, mais ne rentre pas dans les déterminations profondes du phénomène. C'est-à-dire on peut regarder un circuit, décortiquer le circuit, mais on ne se pose jamais le pourquoi, la logique de ce circuit, la finalité de ce circuit. Or, ce circuit enrichit certains au détriment d'autres. Ce circuit n'est pas un circuit innocent ni neutre. Et le paysan, la manière dont il le vit, il ne le vit pas comme un épanouissement, ce circuit de commercialisation. Et c'est essayer de dire, en passant par l'intérieur, de dire ce que ressent le paysan, ce qu'il voit, comment il l'analyse, comment il pourrait le décortiquer. C'est ce qu'on peut dire à partir du point de vue et de l'intérêt des paysans et marchands.
Il y a donc dans votre essai « Paysans et marchands haïtiens » un souci de retrouver les mécanismes, de les analyser, mais il y a aussi, disons, une prise de position optimiste au départ. C'est-à-dire que ces mécanismes analysés ne débouchent pas sur l'impuissance, comme vous le reprochez à Morale, mais sur une perspective d'avenir, c'est-à-dire sur un traitement possible des éléments vers disons, un aménagement de ces structures en vue d'une meilleure, d'un oui. meilleur équilibre des choses.
Oui, construire le réel, interpréter le réel, et c'est la troisième étape, on peut transformer ce réel.
Bon, mais alors je crois qu'il est bon de s'étendre un petit peu sur paysans et marchands haïtiens et de vous demander peut-être vos secrets de recette. C'est-à-dire de livrer à vos futurs lecteurs et aussi à vos futurs élèves, parce que vous êtes un professeur de géographie, les ingrédients de ce livre. Comment procédez-vous? Quels sont vos éléments de recherche, d'enquête? Enfin, tout cela constitue un sujet extrêmement intéressant à analyser.
Bon. Et je ne sais pas exactement quand ce manuscrit sera un ouvrage, parce qu'il y a toute la démarche de trouver un éditeur, etc., pour cet ouvrage. D'accord. Mais ce que je peux dire immédiatement, c'est que l'ouvrage comprend 5 chapitres et essaye de décortiquer d'abord le niveau de la production, le niveau de la production paysanne. Donc de mettre en place quels sont les modèles qu'utilise le paysan au niveau du parcellaire agricole. Rompre aussi avec 2 courants théoriques. Il y a d'abord un problème des données empiriques et puis un problème théorique. Le problème des données empiriques, c'est que jusqu'en 1970 en Haïti, nous n'avions vécu que sur 2 choses. Il y avait le recensement de 1950 et la monographie de Paul Morale de 1961. Bon. Alors actuellement, depuis 1970, nous assistons vraiment à une accumulation de données nouvelles. Il y a une 50aine de thèses qui ont été patronnées par des universités étrangères. Il y a une 50aine d'études internationales qui sont faites par les organismes internationaux et certaines ont coûté, au moins 2 ont coûté plus de millions de dollars, notamment dans la basse vallée des Gonaïves et le dernier, celui de l'OEA, l'agrosynthèse de l'OEA. Ce sont des millions de dollars qu'ont coûté ces études. Donc il y a toute une accumulation de données nouvelles. Mais toute cette accumulation de données nouvelles n'est pas suffisante non plus pour permettre de comprendre cette réalité de paysans et marchands. Il y a un déblayage du point de vue théorique. Je n'apprendrai rien à personne en disant que nous avons vécu ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années sur des théories extrêmement difficiles à défendre, qui, deux grands courants, il y avait le courant de la féodalité et toutes ces variantes de préfixes, néo-féodal, pseudo-féodal, quasi-féodal, etc., etc., et un autre courant dit du capitalisme. Elle qui utilisait des allégories spatiales, bord de mer, arrière-pays, etc., etc. Bon, 2 grands courants. Or, ces 2 grands courants n'avaient pratiquement aucun contact avec les données. Il y a toujours eu une rupture entre accumulation de données et développement du champ théorique. Ce qui faisait donc de cette science du social haïtien une science qui se développait en développant ces 2 béquilles, mais sans que jamais ces 2 béquilles ne se touchent. Or, ce que j'essaye, c'est de retrouver cette liaison entre, d'une part, les accumulations de données nouvelles. Et bon, ceci, nous possédons traitement de l'information, traitement des données qui nous sont disponibles, et elles sont actuellement disponibles en Haïti par tonnes. Enfin, quelque chose vraiment de très révolutionnaire. Nous n'avons jamais eu autant de données nouvelles sur la réalité haïtienne. Et d'un autre côté, le déblayage théorique qui se fait. C'est-à-dire, on est en train de rompre avec les interprétations féodales, capitalistes, etc., etc., pour aboutir à une nouvelle formulation de la problématique paysanne, qui sera une formulation de du parcellaire agricole. C'est-à-dire un schéma théorique alimenté par les données de la réalité concrète, enfin voir ce réel-là sur le terrain, et bâtir une nouvelle théorie, et c'est ce qu'on va appeler le parcellaire agricole haïtien, qui vous permet une relecture complète de ce qu'a été le passé, Okay? Et nous permet également de voir de quoi peut être fait un avenir mais vu du point de vue des paysans et marchands, vu de l'intérêt de ces groupes qui constituent, en fait, il faut le dire, et le grand moteur de
l'économie,
l'économie haïtienne et de l'enrichissement haïtien.
Et du développement aussi parce que, puisqu'on parle beaucoup de développement. Donc, nous en étions à paysans et marchands haïtiens, mais c'est l'œuvre à venir. Ce qui arrive, c'est cette lettre ouverte et le deuxième volume de l'espace haïtien, donc
ce
vous ne parlez pas.
Bon, attendez.
Faut en parler.
Ce qui peut vous arriver, et j'ai à côté de moi mon éditeur, et ça va dépendre, ce qui devrait peut-être vous arriver en août, septembre, juste avant la rentrée, c'est la lettre ouverte, celle qui va permettre à chaque école de pouvoir adopter avec pertinence l'espace haïtien, en attendant l'espace et société. Celle qui va permettre à chaque professeur d'avoir en main un outil de travail avec l'espace haïtien. L'ouvrage également qui fait un plaidoyer pour l'introduction de cette science du social et de la nature haïtienne au baccalauréat. Il est temps aussi qu'au baccalauréat, nous ayons, et ceci est écrit, ceci est défendu en conclusion, que nous ayons une épreuve écrite de géographie d'Haïti, comme en littérature haïtienne, comme en histoire d'Haïti. Nous avons besoin de cette épreuve pour justement développer, continuer à développer ces travaux sur l'espace haïtien. Si nous avions eu cette épreuve, je prends un exemple, le dernier numéro de Conjonction sur l'économie haïtienne, où 6 spécialistes haïtiens se sont penchés là-dessus. Je prends le numéro également de Port-au-Prince, avec un gros point d'interrogation. Mais ce serait des classiques de l'école haïtienne si la géographie était au baccalauréat. Des ouvrages qui se vendraient dans l'école. On peut aller très loin. Tous les travaux qui ont été faits sur Haïti quel développement et sur tous les articles qui sortent dans les journaux deviendraient matière d'école. Le réel haïtien rentrerait dans l'école.
Oui, mais Georges Anglade, est-ce que vous ne confondez pas un tout petit peu, et là je comprends très bien d'où peut venir la confusion, vous ne confondez pas un tout petit peu la matière du secondaire et le matériau de l'universitaire? Est-ce que vous ne donnez pas à l'écolier les galons de l'universitaire,
hein? Oh non. Et il faut voir, et ceci aussi est développé dans la lettre ouverte en réponse, quelles sont les spécificités de l'école secondaire haïtienne? Chacun a souvent l'impression de travailler dans son école et son école est strictement fermée. Or, que savons-nous, par exemple, du baccalauréat, du certificat d'études primaires en 1974? Eh bien, il y a eu 21 000 étudiants présentés au certificat d'études primaires. Sur ces 21 000, à peu près 15 000 ont eu ce certificat d'études primaires. Et l'âge moyen de ces 15 000 étudiants, élèves à avoir eu le certificat d'études primaires, était, par exemple, de 15 ans. Donc, voilà quelque chose. Il existe des écoles, enfin, UP, qui ont une clientèle de 12 ans 6e, 17 ans rhétorique, mais les mécanismes même de l'augmentation de la clientèle secondaire fait que la 6e se fait dans la majorité des cas à 15 ans, 16 ans. Or, elle s'adresse à une clientèle qui est bien définie, ayant bien pris sa cible, et dans un langage qui lui est plus ou moins adéquat, et la difficulté n'est pas tellement la difficulté des élèves telle que je le retrouve à travers ma correspondance et puis à travers les contacts et les discussions que j'ai avec mes collègues qui enseigne dans le secondaire haïtien, c'est plutôt la difficulté du professeur qui, subitement, ne doit plus enseigner la lune, l'équinoxe et puis deux ou trois autres choses du même genre, et qui se retrouve subitement à parler de ce réel haïtien auquel il n'est absolument pas habitué. Disons qu'il est plus à son aise dans la vallée de la Rure que dans la vallée de l'Artibonite. Alors c'est ça le décalage, c'est ça son drame, sa difficulté. Et ajouter à ceci deux ou trois innovations un petit peu piquante, le tutoiement, par exemple, dans l'ouvrage, et il se retrouve, vous mettez ce professeur de géographie dans une situation pas bien méchante, en somme, mais où il est porteur maintenant d'un message nouveau qu'on devra ensemble construire, et c'est à lui de cheminer avec, enfin, les premiers moments de stupeur passés, disons. Je m'attends en septembre à ce que le développement de l'espace haïtien se fasse de manière assez abondante pour nous permettre de sortir Espace et Société en Haïti, qui est le deuxième volume qui s'adressera maintenant, et qui est bien explicité au niveau de la lettre ouverte, à la seconde, première et philosophie.
Mais voilà qui est un très beau programme, Georges Anglade, mais cela suppose beaucoup de prérequisites. comme on dit dans le monde anglo-saxon. Tout d'abord que le baccalauréat puisse ouvrir, je ne dis même pas une porte, même pas une fenêtre, mais une lucarne, à l'enseignement de la géographie et à sa sanction officielle. Et un deuxième, qui est plus important, mais peut-être que l'un et l'autre sont liés, un deuxième, c'est que les rapports entre maître et élève évoluent. Mais là, je peux vous dire tout de suite, Georges Anglade, que les choses ne sont pas aussi figées que vous auriez pu de l'extérieur le croire. Il y a maintenant des rapports plus cordiaux, plus humains, plus amicaux entre maître et élève. Il y a même, au-delà du tutoiement français, il y a même les échanges en créole, de la chaire à la salle de classe. Et je crois que là, c'est très fructueux, cela ne peut qu'aider à faire passer l'étude de l'espace haïtien.
Alors, je retrouve tout mon optimisme là dans le travail. Si, et c'est ce que j'essayais timidement de défendre au niveau de l'espace haïtien, c'était par exemple l'utilisation du créole pour faire passer ses messages. Mais je dois dire que ce respect du créole s'en va très loin maintenant. Enfin, je reviens de Columbia University à New York où j'ai été invité à prononcer une conférence en créole. Et je commence donc à pouvoir utiliser cette langue et j'espère bien qu'un beau jour, à l'aide de ces outils, un professeur pourra bien prendre son manuel Espace haïtien ou Espace et société et faire son cours pendant 3 heures en créole. Bravo. D'ailleurs, mon plus prochain Bravo. Cours à Port-au-Prince sera en créole, évidemment, sur la géographie d'Haïti.
Bravo, Georges Anglade. Et je crois qu'il faut arrêter là en disant que nous attendons tous cette lettre ouverte et surtout Espace et société, deuxième volet de l'espace haïtien. Au revoir et bonne chance.
À bientôt.